de l'invention. On irait vers la Sainte Croix, la seule relique qu'a laissée le Christ ressuscité. Mais il ne représente qu'une petite partie de ce complexe monumental qu'on appelle le Saint-Sépulcre. Car dans la foulée de sa découverte, Hélène a inventé aussi toute une scénographie de la mémoire. À quelques dizaines de mètres de l'endroit où elle trouve la croix, elle identifie l'emplacement du Golgotha, puis celui du tombeau du Christ, le sépulcre proprement dit, simple grotte creusée dans une ancienne carrière. Remaniée et reconstruite à de nombreuses reprises, l'église actuelle enchâsse complètement ces différents lieux saints comme dans un coffrage. On monte maintenant au Golgotha par un escalier qui ouvre sur une double chapelle, moitié arménienne de rite latin, moitié orthodoxe de rite grec, puisque depuis le XVIe siècle, ce sont les différentes communautés orientales qui se partagent l'administration des lieux saints. Dans la chapelle orthodoxe, les pèlerins se recueillent sur le trou où a été plantée la croix elle-même. Ils reproduisent alors des gestes attestés dès la fin du Moyen Âge, où l'on cherchait à glisser sa main ou poser sa tête dans cette empreinte, comme pour prendre physiquement la mesure des lieux de la Passion. Un peu plus loin, voici la pierre de l'onction, sur laquelle le corps du Christ a été lavé et enveloppé dans le sanctuaire. Car ce que l'on révère ici, ce sont des traces, des empreintes, des absences.
Aujourd'hui, au Saint-Sépulcre, on n'y voit rien. Mais c'est pas fait pour qu'on y voit quelque chose. Ce qu'on voit, c'est au fond l'amas d'histoire. C'est la complexité d'une histoire qui est, j'irais, presque concassée, presque comprimée dans un si petit espace. Et tout cela fait une sorte d'ambiance extraordinairement confuse.
Cette confusion dit l'histoire de la ville de Jérusalem. Une histoire heurtée et disputée. Une histoire de séparation également entre différentes religions et différentes confessions d'une même religion. Et parmi ces différentes confessions chrétiennes, il en est une dont le désir de rationalité s'accommode mal de cet amas inextricable et rutilant qu'est le Saint-Sépulcre. En 1884, un évangéliste anglais du nom de Charles Gordon prétend avoir découvert le vrai lieu de la crucifixion du Christ. Il serait au pied d'une falaise qui a le bon goût de ressembler à un crâne et donc qui peut nous rappeler le Golgotha. Surtout, il est nettement en dehors des murailles hérodiennes que les archéologues identifient au même moment. Depuis, le développement urbain a sérieusement contrarié le point de vue et limiter la possibilité d'élan mystique. Mais il n'a pas empêché la création, non loin de là, d'un Saint-Sépulcre alternatif, adapté à une foi réformée, en recherche de vraisemblance et de recueillement.
Alors le dispositif n'est pas tout à fait achevé. Il n'est pas achevé sur le plan temporel, parce que Jésus a été jugé et mort sur la croix, ressuscité, mais il faut maintenant qu'il monte au ciel. Et il n'est pas non plus achevé, ce dispositif, du point de vue spatial, parce que l'ensemble de Jérusalem n'est pas encore investi par les lieux de la vie de Jésus.
Face au Saint-Sépulcre, sur le mont des Oliviers, où Jésus aurait séjourné avant son procès et sa crucifixion, Constantin a fait également construire une grande basilique, dont ne subsiste aujourd'hui qu'une chapelle construite par les Francs. Celle-ci était à ciel ouvert jusqu'à ce que Saladin ne la recouvre d'une coupole pour la convertir en mosquée. C'est la mosquée de l'Ascension, identifiant le lieu d'où Jésus a quitté la terre après sa résurrection. Encore un lieu vide, encore une empreinte, celle qu'a laissée son pied au moment de s'envoler. Depuis le mont des Oliviers, on aperçoit l'esplanade des mosquées et le dôme du rocher, où Mahomet a lui aussi laissé l'empreinte de son pied. On est face au temple disparu, devant la porte d'or qui doit s'ouvrir le jour du jugement dernier.
Le temps n'est plus un éternel recommencement ou une attente du Messie, ce qui est le temps du judaïsme, qui est le temps de l'attente. Le temps chrétien, il est évidemment orienté. C'est une religion qui sort de ce temps religieux cyclique. C'est une religion historique, on pourrait dire, qui est fondée sur un personnage historique que l'on peut dater.
C'est en cela qu'on peut dire que le christianisme colonise le temps. L'origine, définie par l'événement Jésus, nous fait entrer dans un temps linéaire et historique. Et c'est au travers du calendrier que cette idée chrétienne s'impose au monde. Mais reste une dernière énigme à déchiffrer. Quand commence notre ère ? Le jour de la crucifixion ou le jour de la naissance du Christ ?
Le concile de Nicée de 325 définit la croyance en la crucifixion du Christ comme la base du credo, ce que je crois. Donc, ça veut dire que l'ère chrétienne, elle commence à la passion. On commence à organiser ce qu'on appelle un compute, c'est-à-dire un calendrier cyclique des fêtes de Pâques à partir des dates supposées de la passion du Christ. Et tout cela jusqu'à ce qu'un moine, qui s'appelait Denis le Petit, en 525, invente une autre manière de décompter le temps.
Le temps commence pour lui en l'an 1, qui est celui de la naissance du Christ. Adopté par le pape, ce changement d'ère ne se généralise pas avant le 10e siècle. Et il faut attendre sans doute le 15e ou le 16e siècle pour que l'ère de la nativité fasse irruption dans les représentations collectives et devienne un moyen courant de faire date.
Donc au total, l'ère de la passion aura duré très peu de temps, de 325 à 525, 200 ans. Mais on pourrait jouer. On peut se demander qu'est-ce qui se serait passé, comment on compterait les siècles aujourd'hui si Denis le Petit n'avait pas eu cette idée bizarre. L'ensemble donc de notre décompte s'en trouverait décalé de 33 ans.
Dans le calendrier de la Passion, le XXe siècle ne commencerait ni en 1900 ni en 1914. Il se délesterait de la Première Guerre mondiale, mais n'en commencerait pas moins de manière dramatique. Ce serait un siècle qui débuterait en 1933 avec l'arrivée d'Hitler et un siècle dans lequel nous serions encore. Mais qui est ce « nous » qui parvient si mal à saisir la diversité des calendriers du monde ? Même si nous sommes persuadés de vivre au XXIe siècle, on pourrait aussi bien dire que nous sommes au XVe siècle de l'Égypte ou au 58e du calendrier hébraïque. Alors poursuivons cet exercice de désorientation. Que se passe-t-il dans le monde pendant la vie du Christ ? En ce temps-là parut un décret de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre, lit-on dans l'évangile de Luc. Mais l'événement date probablement de l'an 15 de notre ère et ne concerne que la Syrie. S'il y a un empereur dans le monde capable de recenser toute la terre, ce n'est pas Auguste, mais Han Pingdin, avant-dernier représentant de la dynastie des Han antérieurs. En 2 de notre ère, il recense la population de l'empire le plus peuplé du monde. Il y a 57 671 400 Chinois. D'autres religions prennent au même moment leur essor dans le monde. Les religions orientales à Rome, et notamment le culte de Mithra, d'origine perse, mais surtout le bouddhisme du grand véhicule en Inde. Autant de religions, autant de calendriers.
Ce qui est frappant lorsqu'on va à Jérusalem, c'est que on voit physiquement, douloureusement, combien les mémoires s'y affrontent. Jérusalem n'est pas une ville chrétienne. C'est une ville juive, musulmane et chrétienne. Les lieux y sont disputés, presque enchevêtrés, douloureusement affrontés. En revanche, le temps des chrétiens, je dirais, s'est quand même imposé au monde. Et c'est frappant ce contraste entre cette colonisation de l'espace si difficile, si âpre, si conflictuel, et cette colonisation du temps qui est imperceptible et douce. Mais c'est une fausse douceur, en réalité, parce qu'elle est pernicieuse. Lorsque nous disons « telle année de notre ère », nous supposons ou nous feignons de croire que le monde entier se plie au calendrier des chrétiens. On voit bien dans l'espace que les lieux sont disputés. Mais le temps, en somme, se colonise plus facilement que l'espace.